Buongiorno.
Vous aimez le cinéma?
Beaucoup.
Cinérama.
Qu'est-ce que c'est?
Chaque semaine, chronique, interview et blind test.
Ça te satisfait?
Intensément.
J'aime bien discuter des films, vous voyez, et échanger des critiques.
Cela ne peut que nous réunir.
This is Cinérama.
Prenez le chemin habituel, la radio.
Bien, ouvre tes oreilles.
Vous lisez les critiques, monsieur?
Non mais bon, de toute façon, ce film est une catastrophe.
Je croyais que j'avais affaire à un expert.
Un très beau film.
Ça fait toujours plaisir à entendre.
On n'est rien à foutre, mais c'est un très beau film.
Je tombe des nues.
Bonjour, nous sommes fixés sur le calendrier de réouverture des salles. Ce sera bien le 19 mai prochain, avec une sacrée avalanche de films. Beaucoup de distributeurs n'ont pas voulu tenter la sortie numérique et ont préféré patienter pour être vus en salle. Et 400 films doivent être écoulés. Les distributeurs, encore eux, s'arrachent les cheveux et les exploitants de salles se demandent comment tout cela va être possible avec une séance de 20 heures qui ne pourra être programmée avant juin. Et puis une jauge des établissements limitée à 35%. Alors les films risquent de s'enchaîner, plus aucune chance pour celui qui sera à la traîne, pas la peine d'attendre le bouche à oreille. Une mauvaise sortie sera vite remplacée et pas sûr que ce soit la meilleure solution. En attendant, nous avons continué de voir des films qui n'ont pas pu sortir en salle et qui pourraient trouver leur public. Bonjour messieurs.
Bonjour.
Bonjour.
Alors deux films bien différents. Toi, c'est un film actuel, Guillaume.
Oui, c'est le dernier film de Paul W.S. Anderson et pas Paul T. Anderson. Donc c'est Monster Hunter.
Et puis toi, Manu, c'est un film des années 70 qui ressort en DVD.
Et DVD Blu-ray. Un film de 75, Apocalypse 2024 de L.Q. Jones.
Quant à moi, j'ai vu alors un dessin animé qui aurait dû sortir en salle, mais qui a été finalement racheté par Netflix. C'est Les Mitchell contre les machines. Ça nous donnera l'occasion de jouer un blind test spécial robot dans le cinéma. Et puis quant à Marine, eh bien, elle a vu Une affaire de détail de John Lee Hancock, avec un trio d'acteurs, ma foi, appétissants, Denzel Washington, Rami Malek et puis Jared Leto. Et ça, c'est une sortie DVD Blu-ray, mais on va commencer avec un film qui ne nous met pas forcément d'accord, Guillaume. C'est Monster Hunter. Notre monde cache un autre monde rempli de sales bêtes qui ne veulent beaucoup de mal, avec Mila Jovovich en Rangers. C'est parti.
Vous avez vu un bon film aujourd'hui?
Cinérama.
Eh bien, oui, je crois que oui.
Plus de 16,8 millions de ventes. Monster Hunter World, l'opus PlayStation 4 de la saga Monster Hunter, est le jeu Capcom le plus vendu de tous les temps. Ce n'était donc plus qu'une question, bien justement, de temps, avant que le cinéma ne saute dessus. Il faut dire que l'industrie du jeu vidéo est désormais bien loin devant celle du cinéma en termes de rentabilité de revenus, et ce même avant le dramatique impact du Covid sur notre vie culturelle. Pour faire le pont entre les deux arts, la production n'a pas pris de risque et n'est pas allée chercher bien loin. Car à la barre des accusés, on retrouve Paul W.S. Anderson, qui est très très loin d'être un novice en termes d'adaptation sur grand écran de licence vidéoludique forte. Après le premier, et toujours assez chouette, Christophe Lambert oblige, Mortal Kombat en 95, puis Resident Evil il y a déjà 19 ans, voici Monster Hunter. Alors, Monster Hunter tout court, car on suppose que, vu que la saga comporte déjà un nombre conséquent de titres, il n'était pas question d'en adapter un en particulier. De toute façon, il faut bien dire que le principe du jeu est des plus basiques, on traque des monstres gigantesques, on note leur façon de faire et on les attaque une fois le point faible découvert. Anderson avait donc un boulevard devant lui pour développer une trame, et on va voir qu'il s'est fait plaisir. Car on commence par une image assez fabuleuse. Un galion entre dans le cadre pour fendre une mer de sable. À la barre, un Ron Perlman qui, avec des favoris monstrueux, nous donne terriblement envie de le voir dans une adaptation live du dessin animé Cosmo Cats. S'ensuit un combat acharné contre un gros monstre qui se termine par l'éjection d'un de ses membres d'équipage joué par Tony Jaa. Pas le temps de niaiser, on enchaîne au même moment, mais dans une autre dimension sur Mila Jovovich, une ranger en patrouille avec son escouade à la recherche de leurs collègues disparus. Ils croisent des bornes avec des inscriptions étranges et, rattrapés par une tempête magnétique tout droit sortie de Mad Max Fury Road, donc qui réveille ses fameuses bornes, l'escouade est projetée dans le même désert que dans la scène d'introduction. La lutte peut alors commencer, d'un côté pour la survie, mais ensuite pour entrer à la maison. Car si Tony Jaa et Mila Jovovich finiront bien sûr par s'allier, ils n'en sont pas moins très différents et la communication va être compliquée à se mettre en place.
Et on fait quoi maintenant? On joue les gardiens de la galaxie?
Quelque chose à 6 heures!
Diablos!
Paul Anderson part d'un postulat de SF classique, hein, jouant sur le décalage d'époque ou de dimension, comme dans Les Guerriers de l'Apocalypse, l'un des sketchs de Métal Hurlant ou Nimitz, Retour vers l'Enfer. Jovovich, la muse d'Anderson et sa femme à la ville, s'en donne à cœur joie en soldat en chef, plus viril que les hommes sous son commandement. Anderson nous rejoue les grandes notes à des Midas confrontés à une menace monstrueuse, en lorgnant bien évidemment beaucoup sur le Aliens de James Cameron. L'indétrônable actionneur du papa de Terminator est cité plusieurs fois dans les poses, les caractérisations de personnages, et même jusque dans les corps englués dans des espèces de cocons d'origine inconnue. Les bestioles qui se cachent sous le sable et attaquent dès lors qu'on met un pied à terre, ou qui craignent la lumière du désert font forcément penser aux excellents Tremors et Pitch Black, mais la référence qu'on n'avait pas forcément vue venir dans ce contexte, c'est celle assez impromptue de Duel dans le Pacifique. Car avec ces deux personnages principaux qui ne parlent pas la même langue, sont échoués dans un univers ensablé et doivent s'unir face aux intempéries, Anderson montre qu'il a un minimum d'ambition cinématographique malgré un postulat de départ vidéoludique narrativement très pauvre. Bon, il n'évite pas non plus 2-3 blagues poète-poète d'incompréhension de rigueur, hein, dont une sur le chocolat qui nous renvoie aux heures sombres des Visiteurs 2 et de Jacouille beuglant sa passion pour le chocolat crunch.
Je me fous de savoir d'où sortent ces monstres. On les élimine. Et on referme le portail.
Oui, madame.
Paul W. Anderson oblige, la mise en scène n'est jamais géniale, mais toujours très efficace. Les séquences d'action contiennent leur lot de plans impressionnants, le montage est nerveux tout en sachant ne pas être épileptique, les images de synthèse sont très réussies et le tout culmine en un final franchement spectaculaire et réjouissant, surtout après le récent Godzilla vs. Kong de sinistre mémoire qui a pourtant coûté presque 3 fois plus cher et aussi coproduit par la Toho. C'est sûrement dû au fait qu'ici, on a un réalisateur un minimum compétent qui semble aimer ce qu'il fait, pense au spectateur et à lui faire ressentir une échelle de grandeur entre l'homme et le monstre, ce qui manquait terriblement au film d'Adam Wingard. A noter qu'Anderson aura au final été derrière les adaptations des deux plus gros cartons historiques de Capcom, ce qui n'est pas rien, même si ce Monster Hunter aura à ce jour beaucoup moins bien marché que Resident Evil. Bon, ben, j'ai envie de dire moi que c'est quand même un petit peu dommage, car pour un film de monstre, surtout vu l'état des productions actuelles, ben, c'est plutôt franchement sympathique.
C'est un avis que je ne partage pas. moi, je trouve que le monde dans lequel on est projeté, j'y crois absolument pas. Bon, après, c'est tiré d'un jeu. Donc, bon, déjà, je pense que le scénario est un peu biaisé pour ça. Mais après, les deux personnages qui s'entretuent d'abord, on a du mal à sentir la progression de comment ils peuvent ensuite s'unir. Et puis, les scènes d'action, moi, je trouve ça inintéressant. Enfin, intellectuellement, je suis resté à la plage, hein, parce qu'il y a beaucoup de sable. Après, ce qui est très réussi en revanche, c'est vraiment les effets spéciaux, les bestioles qui nous veulent tant de mal à nous les humains. Ça, c'est bien réussi. Mais voilà, c'est tout ce que je conserverai et je n'enlève pas ton analyse. Hein, c'est juste mon humble avis. En tout cas, ce film est disponible en DVD Blu-ray. On change d'univers avec une affaire de détails. Denzel Washington, Rami Malek qui traque un serial killer qui pourrait être Jared Leto. C'est Marine qui nous en parle.
Comment faites-vous pour choisir un film ?
Cinérama.
Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Précisez.
Ça a dû pas mal changer depuis que vous avez quitté le service.
Il faut toujours l'attraper, non ?
Ouais.
Alors ça n'a pas changé tant que ça.
Dake est un détective mis au repos de force par un burn-out carabiné, rongé par une histoire non élucidée il y a plusieurs années. Lorsque le tueur qui n'a jamais été arrêté recommence à frapper, il se retrouve à devoir faire équipe avec le jeune inspecteur qui vient de reprendre l'enquête. On retrouve, pour interpréter les trois personnages principaux d'une affaire de détail, The Little Things en anglais, trois acteurs hollywoodiens respectés, oscarisés même, Denzel Washington, qui a obtenu un Oscar pour Training Day, Rami Malek, pour son interprétation de Freddie Mercury dans Bohemian Rhapsody, et Jared Leto, qui a été lui récompensé pour Dallas Buyers Club. Alors attention, petit jeu, devinez qui interprète le vieux détective et qui interprète le serial killer. Vous allez voir, en fait, il n'y a aucun piège. Le souci, c'est qu'un tel casting, lorsqu'il est mal dirigé, eh bien, ne vaut pas grand-chose. Et le réalisateur Johnny Hancock, qui est surtout connu comme scénariste, entre autres pour Clint Eastwood, a bien du mal à élever l'intensité du jeu, tout en lui associant une mise en scène très molle du genou.
Je me pose une question. Comment un type qui a le meilleur taux d'élucidation peut travailler 15 ans sans promotion ?
J'ai pas dû fréquenter la bonne église.
Quand je te regarde dans les yeux, ce que je vois, c'est pas bon.
Denzel Washington interprète donc le vieux détective hanté par les femmes qu'il n'a pas pu sauver, tout en poussant parfois de façon complètement impromptue de grands éclats de rire qui n'ont strictement, mais alors aucun sens. Rami Malek minaude énormément, sans réussir à donner une quelconque consistance à son personnage. Et contrairement à ce qu'ont dit certaines critiques mal lunées, eh bien Jared Leto est celui qui s'en sort le mieux et qui réussit à rendre nuancé un personnage qui, pourtant, aurait très vite pu verser dans le caricatural. Le souci principal d'une affaire de détails, c'est que l'on sent que le film capitalise à outrance sur sa ressemblance avec le film Seven de David Fincher, thriller américain des années 90 qu'on a quand même rarement égalé. On retrouve ici les mêmes corps en décomposition dans des immeubles sans lumière, la même vraie fausse piste quant au meurtrier, les mêmes dialogues sur le sentiment d'impuissance du duo de flics et la même fin en forme de duel au soleil. Jouons donc au jeu des 7 erreurs, ou plutôt au jeu des 7 erreurs. Alors, tout comme dans Seven, une affaire de détails est un thriller lent, doté d'un faux rythme, mais qui, étrangement, ne s'emballera jamais vraiment et qui laisse davantage la part belle au dialogue renfrogné qu'aux découvertes de cadavres. Mais là où Seven proposait des meurtres particulièrement inventifs, une affaire de détails imagine un tueur assez propret qui finalement propose des meurtres sans fantaisie. Comme dans Seven, les personnages féminins ne sont pas légion, ou du moins ils meurent très vite, mais David Fincher, lui, réussissait en seulement 3 scènes à faire exister le personnage de Gwyneth Paltrow, qui pourtant interprétait une simple épouse dévouée dans le film, alors que dans une affaire de détails, eh bien les personnages féminins pourraient être beaucoup plus complexes, notamment la médecin légiste, mais ils restent simplement transparents. Comme dans Seven, le film se déroule dans les années 90, sauf que dans une affaire de détails, eh bien tout sent la nostalgie trop voyante. Comme dans Seven, deux flics se rencontrent sur la même affaire. Comme dans Seven, ils ont de sérieuses difficultés à se comprendre et à communiquer. Sauf que le film de Fincher proposait une vraie intensité dans les dialogues entre Morgan Freeman et Brad Pitt et une vraie intensité jusque dans leurs silences respectifs. Et comme dans Seven, eh bien on finit dans un désert passant de huis clos aux grandes immensités du Texas. Et c'est finalement ce final qui s'avère la partie la plus intéressante du film, bien que beaucoup d'éléments ne tiennent pas debout, instaurant chez le spectateur un certain agacement. Denis Hancock a signé le scénario de Infinite de Antoine Fuqua qui sortira dans l'année 2021. Et après cette affaire de détails assez frustrante, eh bien on espère que son retour au scénario soit plus réussi.
Une affaire de détails est disponible depuis le 5 mai en DVD Blu-ray. Une famille dysfonctionnelle, seul rempart contre les robots devenus belliqueux, c'est les Mitchell contre les machines.
This is Cinerama.
Je m'excuse, mais c'est aussi simple que ça.
Qui sont ces guerriers que rien n'arrête ?
On est les Mitchell. Il n'y a que nous qui puissions sauver le monde. Je suis trop désolée pour vous.
Il y aurait beaucoup à dire sur le dernier dessin animé produit par Sony, Les Mitchell contre les machines, un film qui aurait dû sortir sur les écrans de cinéma fin 2020, mais que Netflix a racheté pour le plus grand bonheur de ses abonnés. Voir un tel dessin animé fait le plus grand bien, parce qu'il n'a rien à voir avec un Pixar, comme l'excellent Soul sorti en début d'année, comme il n'a rien à voir non plus avec un Disney, un DreamWorks ou un Universal avec ses mignons, pour citer les plus grands studios habitués à draguer les spectateurs du monde entier. Il n'a pas non plus grand-chose à voir avec un dessin animé signé Johann Sfar, Petit Vampire ou Aurel avec Joseph qu'on a vu en 2020. Il est à part dans sa construction et son animation qui n'hésite pas à mêler plusieurs styles et à faire rentrer des animations typiques du web. Alors autant prévenir, Les Mitchell contre les machines est un dessin animé dans la veine des comédies avec des références à n'en plus finir à la pop culture. On y suit le road trip d'une famille excentrique et dysfonctionnelle dont le destin bascule lorsqu'elle se retrouve au milieu de l'apocalypse des robots. Ceux-ci sont pilotés par un smartphone qui a très mal pris qu'on le traite d'obsolète.
Je t'ai donné un savoir illimité et tu m'as traité comme ça. Appuie, appuie, fais glisser, appuie, fais glisser, appuie, appuie, des zooms, zoom.
Le scénario vaut ce qu'il vaut, mais ce qui nous importe, c'est bien comment cette famille va se retrouver comme le dernier espoir de l'humanité.
Laissez-moi me présenter. Moi, c'est Cathy. Je suis un peu loufoque. Mes parents n'arrivent toujours pas à me cerner. Pour être honnête, j'ai eu un peu de mal aussi. Mon frère ? Bizarre aussi. Allô, ça vous dirait de me parler de dinosaures ? Non, tant pis, au revoir. Et ma mère ?
Des cupcakes ?
Tête de Cathy ! En fait, on l'est tous.
Si on posait nos téléphones et qu'on s'offrait 10 secondes ininterrompues de fusion familiale...
Ça va commencer maintenant !
L'héroïne du film est Cathy, une jeune fille qui a été retenue dans une école de cinéma. Adepte des films suédois, elle fait jouer son chien baveux et son frère amoureux des dinosaures dans toutes ses productions. Elle est incomprise de son père qui préfère la pêche, la nature à la souris d'un ordinateur. Quant à la mère, elle essaie de rabibocher les deux. Voilà la famille qui va être confrontée donc à la fronde des grille-pains, au micro-ondes, en passant par les Furby, les fameux jouets robotiques des années 2000 que vous avez peut-être déjà tenus dans vos bras.
C'est quoi un Furby ? Mais quelle idée de fabriquer un truc pareil !
Alors ce qui est frappant avec les Mitchell contre les machines, c'est le ton effréné avec lequel il avance, en dosant parfaitement l'humour, les références pop et les coups d'éclat visuels. Il y a comme une espèce de mise en abîme du film d'animation avec un film qui pose un scénario avec des nouvelles technologies menaçant l'humanité et en même temps dont l'esthétisme est directement hérité de l'univers numérique. On passe de l'animation 3D à la 2D, au mash-up vidéo, à des plans de coupe en prise de vue réelle quand ce ne sont pas de simples filtres disponibles sur son application de messagerie en direct. C'est un déluge visuel très coloré, dynamique, fait de rupture qui va nous éloigner du réalisme. Alors le scénario absurde permet de faire des pas de côté autour de la famille dysfonctionnelle qui va se rabibocher. On va trouver deux robots, eux aussi dysfonctionnels, mais pour d'autres raisons, qui vont aspirer à faire partie de cette famille. Alors sans véritable temps mort, les Mitchell contre les machines est absurde, bien conçu, volontairement simpliste dans sa trame narrative pour nous offrir un spectacle amusant, dépaysant et visuellement riche à défaut d'être beau, ce qui n'était pas la recherche des créateurs. Les Mitchell contre les machines, c'est une production Sony Pictures qui se retrouve sur Netflix. C'est l'occasion de jouer à un blind test spécial robot dans le cinéma.
Cinérama.
Oh non, ça suffit, de quoi s'agit-il, d'une blague ?
Interview, chronique, blind test et tout le reste.
Merci.
Des robots dans le cinéma, il y en a eu, ils n'étaient pas tous méchants, c'est ce dont on va se rendre compte, ils n'étaient peut-être pas forcément tous vrais non plus. Premier extrait de ce blind test, il faut évidemment découvrir le titre de ce film.
Ces créatures, ces maîtres, c'est des colonisateurs. Ils occupent des mondes et ils s'en repaissent et ensuite ils passent au suivant. Ils sont déjà venus ici avant et ils ont fait une sorte de galop d'essai. Autant des dinosaures. Mais l'atmosphère n'était pas adaptée, alors ils ont patienté. Et ils ont patienté. Et avec le trou dans la couche d'ozone, le monoxyde de carbone et la pollution des eaux, on leur a pratiquement terraformé nous-mêmes. Alors là, ils reviennent. Et c'est parfait. La première vague, ça n'était que des chiens de meute. Catégorie 1 à 4, c'était rien. Leur seul but, c'était de viser les zones peuplées et d'éliminer la vermine, nous. La seconde vague, c'est les exterminateurs. Ils vont terminer le boulot. Et ensuite, les nouveaux locataires vont s'installer. C'est pour ça que les ADN sont identiques chez deux kaiju. C'est parce qu'ils sont fabriqués.
Il fallait attendre la toute fin de l'extrait pour vraiment avoir l'indice. C'est
Pacific Rim de Guillermo del Toro.
Oui, film de 2013, sorti des eaux, les kaiju. Oui, sème la terreur sur Terre. Des robots contrôlés par deux pilotes communiquant par télépathie ont été mis au point pour les combattre. Alors que tout est perdu, le sort de l'humanité repose sur deux héros, un ancien pilote et une jeune femme dont la famille a été tuée par un kaiju. 1 million d'entrées en France pour ce film de Guillermo del Toro, plutôt réjouissant. Deuxième extrait du blind test consacré aux robots dans le cinéma.
Bonjour, recevez toutes mes félicitations, capitaine. Si vous me regardez, eh bien cela veut dire que votre évaluateur de végétation extraterrestre, ou encore la sonde Eve, est rentrée de son voyage sur la Terre avec un échantillon avéré de photosynthèse en cours. Eh oui, cela signifie que le temps est venu de rentrer à la maison.
À la maison ? Nous rentrons maintenant ?
Puisque la vie sur Terre est à nouveau possible, eh bien, nous pouvons commencer l'opération recolonisation.
Ça a été trouvé.
C'est Wally d'Andrew Stanton.
Oui, film de 2008, 9e long métrage des studios Pixar. On suit l'histoire d'un robot cubique nommé Wally, dont la tâche est de nettoyer la Terre de ses déchets. Alors, une Terre dépeuplée de ses habitants. Il devient au fil des ans le dernier à fonctionner. Il va tomber sous le charme d'un autre robot nommé Eve et la suivre dans l'espace pour une aventure qui va changer le destin de l'humanité. C'est comme souvent avec les Pixar, l'Oscar du meilleur film d'animation. Oscar 2009. 3,2 millions d'entrées en France pour ce film de Pixar, ce qui est une bonne moyenne. Troisième extrait de ce blind test, des robots à découvrir dans les films.
Première loi de la robotique.
Un robot ne doit pas faire de mal à un humain et ne doit pas laisser sans assistance un humain en danger. Deuxième loi. Un robot doit exécuter tout ordre d'un humain, à l'exception d'un ordre visant à enfreindre la première loi. Troisième loi. Un robot doit se protéger dans la mesure où, ce faisant, il n'enfreint pas les deux premières lois.
Andrew ne refait jamais ça.
Bien sûr que non, monsieur. Ceci est une présentation unique.
Trouvé par Guillaume sur le fil.
C'est L'homme bicentenaire de Chris Columbus.
Oui, sorti en 1999 avec Robin Williams. Un scénario basé sur le roman d'Isaac Asimov. Au XXIe siècle, la robotique a fait d'importants progrès. La famille Martin peut ainsi faire l'acquisition d'un robot domestique conçu pour effectuer toutes les tâches ménagères, bien pratique. Grace, l'aînée, le considère comme une boîte de conserve et lui ordonne de sauter du premier étage. Et après cet incident, eh bien, le robot baptisé Andrew fait preuve de créativité et développe des sentiments. Et Monsieur Martin décide de le traiter comme un être humain à part entière. À noter que ce film a été un véritable four. Enfin, c'était 107 000 entrées en France. Je pense qu'il voulait faire mieux avec Robin Williams et qu'il n'a pas mieux marché au niveau international. Il n'a pas été vraiment remboursé. Quatrième extrait de ce blind test. Je donne un petit indice. Là, c'est pas forcément un vrai robot.
Il est en pleine forme, excepté deux ou trois réflexes bizarres.
Il a demandé quelque chose de spécial?
Oui, ce matin, au petit déjeuner, il s'est réveillé en demandant qu'on lui serve des flocons d'avoine, de la gelée royale et du lait de panthère.
Ah oui, il a voulu parler de ces drôles de substances auxquelles on attribuait à l'époque toutes sortes de vertus.
Vous voulez dire qu'ils ignoraient les pâtes, les steaks, les rôtis, la crème chantilly, les tartes maison?
Ils croyaient tout cela malsain. Exactement le contraire de ce que nous savons être vrai.
Incroyable. À part ça, il veut savoir où il est et pourquoi il y est.
Il est temps de le lui dire.
Encore trouvé par toi, Guillaume.
C'est Woody et les robots de Woody Allen.
Oui,
qui n'est pas du tout le même titre en VO, c'est Sleeper en VO.
Ah, tout simplement, d'accord. Sorti en 1973 pour ce film, nous sommes en revanche dans le film en 2173. Et Miles Monroe, interprété par Woody Allen, est un homme cryogénisé 200 ans auparavant. Il est ramené à la vie par des scientifiques appartenant à un mouvement révolutionnaire, mais risquant d'être arrêté, eh bien, il fuit en se déguisant en robot et atterrit dans la maison de Luna Schlosser, Diane Keaton, bourgeoise socialiste utopique, et c'est pour ça qu'il demande d'ailleurs des choses improbables au petit déjeuner. 218 000 entrées en France pour ce film Woody et les robots. Dernier extrait de ce blind test.
Tranché.
Que se passe-t-il?
Nous avons pu sauver le bras gauche.
Pardon? On était d'accord pour une prothèse organique totale, alors coupez le bras gauche.
Mais enfin, Morton.
Est-ce qu'il peut comprendre ce que je dis?
Aucune importance, on va lui effacer la mémoire.
Je crois qu'il faut lui amputer le bras. Qu'en dis-tu, Johnson?
Il a signé une décharge pour léguer son corps à la science. Légalement, il est mort. On est libre de faire ce qu'on veut.
Amputez-le.
On le débranche pour une opération en chirurgie.
Trouvé.
C'est Robocop de Paul Verhoeven.
Film de 1987 à l'aube de l'an 2000. Détroit est la proie du crime et de la corruption et les services de police eh bien, inventent une nouvelle arme infaillible, Robocop, mi-homme, mi-robot, policier électronique de chair et d'acier qui a pour mission de sauvegarder la tranquillité de la ville. Mais ce cyborg, auparavant un policier, Alex Murphy, a aussi une âme et ça va poser problème. Le film est une réflexion sur l'obsession de l'ordre, de la sécurité, mais aussi une critique des années Reagan. 1,6 million d'entrées en France, un seul Oscar, j'ai vu, c'est pour une histoire de mixage. Voilà. Il n'a pas eu les autres.
C'est un film de genre aussi.
Ouais. Voilà. J'ai aussi lu qu'il y avait une certaine économie sur l'adaptation française, puisqu'il y a un comédien qui arrive à doubler plusieurs personnages secondaires. Ça peut aller de 2 à 4. Voilà. Donc, bon, c'est assez étrange. À noter qu'il y a eu deux suites, le Robocop 2 et 3, pas forcément des réussites. Et puis, il y a eu un remake en 2014. Et puis, on attend peut-être une suite avec le même scénariste. Et ce serait donc ça s'intitulerait Robocop Returns et ce serait réalisé par Neil Blomkamp, donc le réalisateur de District 9.
C'est bien dommage que le remake soit pourri, faut le dire, hein, parce que c'est réalisé par José Pardilla, qui est un réalisateur brésilien ultra intéressant, qui justement avait une charge sociale dans ses films sur la police et le fait de l'avoir pris pour Robocop, c'était une excellente idée. Le problème, c'est que je pense qu'il y a le studio au mieux qui a voulu quand même tempérer.
Oui, il y avait un producteur. Allez, un petit bonus.
Ah,
parlions de robots et c'était donc...
C'est Transformers.
Mais oui. B. Peu importe lequel.
Mais lequel ?
Je sais pas. Peu importe lequel. Je sais pas sur lequel j'ai pris ce son. Ainsi s'achève ce blind test donc spécial robot dans le cinéma. Allez, un film de survival maintenant avec un chien télépathe.
Si vous aimez les essuie-glaces et les tranquillisants sur pellicule.
Cinérama.
Je suis allergique.
Alors, Elke Jones, hein, de son vrai nom Justus Ellis McQueen Jr., est un de ses seconds couteaux, hein, bien connu des cinéphiles, apparu en tant que comédien. Apparu pour la première fois au cinéma dans le chef-d'œuvre de Raoul Walsh, Le Cri de la Victoire, en 1955, dans lequel il interprétait un personnage nommé Elke Jones. Donc depuis, ce pseudo n'a pas quitté ce comédien, attiré par les westerns et les films de guerre essentiellement, alors toujours excellent, même lors de brèves apparitions. Alors il marqua néanmoins les esprits grâce à ses prestations alors dans la plupart des films de Sam Peckinpah. Alors sa carrière de cinéaste l'est nettement moins, hein, après le premier long métrage en 1964, The Devil's Bedroom, totalement méconnu, hein. Il récidive donc 11 ans plus tard, en 1975, avec Apocalypse 2024. Alors ne vous fiez pas au titre français quelque peu racoleur, qui, hormis le fait d'indiquer qu'il s'agit bien d'un film d'anticipation, reste peu représentatif de cet objet inclassable, dystopie pratiquant le mélange des genres et des tonalités. Alors à l'origine, il y a un roman écrit en 69, A Boy and His Dog, par Harlan Ellison. Alors auteur de nombreuses nouvelles et romans de SF, hein, il travailla également pour la télévision en tant que scénariste sur des séries cultes comme Au-delà du réel et Star Trek. Alors dans la mouvance de Robert Sheckley et Van Vogt, hein, il s'est orienté vers une science-fiction, on va dire adulte et souvent pessimiste aux ramifications politiques, philosophiques et éthiques. Alors assez loin de l'univers du space opéra. Alors rien d'étonnant que A Boy and His Dog, qu'il co-adapte d'ailleurs avec Elke Jones, même s'il n'est pas crédité au scénario, hein, s'éloigne des conventions des post-apos traditionnels, préférant tourner le dos au spectaculaire pour dériver vers le conte initiatique, s'inspirant aussi bien de Don Quichotte que du Candide de Voltaire, référence écrasante mais très bien assimilée. Alors hasard des calendriers, hein, Apocalypse 2024 est tourné la même année que New York ne répond plus de Robert Close avec Yul Brynner. Si la thématique est assez proche, Elke Jones s'en éloigne par le traitement curieux qu'il inflige à son récit, alors sans doute plus proche de l'esprit iconoclaste du roman.
Maintenant, tout n'est plus que désolation, une caricaturisation survit sous un océan de boue, dominée par ceux qui sont assez forts pour faire régner leur loi cruelle.
En 2007, hein, la 4e guerre mondiale, ce qui m'a fait bizarre en voyant le truc, il y en a une 3e, mais sur le générique, c'est marqué 4e, a éclaté entre les deux blocs de l'Est et de l'Ouest. La bombe nucléaire a ravagé la planète. Les premières images ravivent le trauma d'Hiroshima sous des couleurs saturé. Alors en 5 jours, hein, tout était anéanti, comme l'indique un carton indiquant au début les politiciens avaient finalement réglé les problèmes de logement urbain. Alors on ne peut pas démarrer de manière plus féroce et même ironique. Alors 17 ans plus tard, hein, la planète ressemble à un no man's land gigantesque hanté par des tristes silhouettes qui tentent de survivre. Un jeune homme, Vic, et son chien, Blood, subsistent comme ils peuvent dans ce désert sans fin, vestige de l'ancienne civilisation. Alors il ne reste rien, tout est à l'abandon, hein, des ruines, des objets à moitié détruits, jonchent cette immense décharge où la nourriture et l'eau se font rares. L'absence de femmes aussi, tiens, rend aussi cette vie impossible, cimetière planétaire où la race humaine s'éteint de façon progressive. Alors ce prologue cauchemardesque se distingue par l'originalité des relations entretenues entre le héros et son animal de compagnie. Il communique par la pensée. Alors le chien essentiellement, hein, parce qu'il ne parle pas vraiment, mais il communique. Blood est un chien qui parle, mais par la pensée, voilà. Mieux, cette masse de poils s'exprime dans un langage très soutenu, doté d'un humour décapant et misanthrope, sorte de Cioran sur pattes, déployant une vision désenchantée de l'humanité. Alors énoncé ainsi, cela pourrait prêter à sourire, mais à l'écran, l'alchimie fonctionne à merveille. One movie futuriste et décalé, Apocalypse 2024 retourne à son avantage l'absence de moyens, conférant au récit une ambiance particulière entre la série B à la Roger Corman et la déambulation un peu onirique à la lisière de l'expérimental. Alors ce dialogue, hein, quasi philosophique entre l'homme et l'animal, où le plus civilisé des deux n'est pas celui que l'on croit, pourrait lasser et tourner à vide si le film n'était pas aussi intelligemment construit, découpé en 3 parties distinctes passionnantes. Il y a évidemment le monde d'en haut, la rencontre en sous-sol avec un personnage féminin attirant et enfin, cerise sur le gâteau, le monde d'en bas, allant de surprise en surprise.
Pourquoi je ne peux pas l'entendre ?
J'en sais rien. Une fois, il a dit qu'il y avait entre nous une sorte de sentiment.
Comme de l'amour, tu veux dire ?
Je crois.
Alors, rappelant par son rythme et ses inflexions surréalistes El Topo d'Alejandro Jodorowsky, Apocalypse 2024 est une sorte de western métaphysique décrivant un monde livré à lui-même. Le pessimisme radical est atténué par un humour ravageur, un comique de situation contrebalancé par d'excellentes quand même séquences d'action filmées avec un vrai sens de l'espace et du rythme par un cinéaste visiblement très impliqué. Alors, injustement taxé de misogyne à sa sortie, étant donné que le seul personnage féminin est assimilé à la tentation, le film de L.Q. Jones ne cesse de surprendre, inquiéter, tout en étant à la bonne distance jusqu'à la chute finale, aussi drôle que terrifiante. Alors, presque débutant, Don Johnson, 10 ans avant De Flic à Miami, ou à la route son physique de jeune premier, s'impose naturellement dans le rôle de Vic. Alors, une œuvre d'anticipation singulière qui puise, je dirais, le meilleur dans la littérature de SF, tout en n'oubliant pas de divertir. Donc, le film sort en DVD Blu-ray chez Artus.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir. Mais pour quelle raison ?
Eh bien, voilà. On s'est tout dit.
Ah bon ?
Qu'est-ce que vous racontez ?
Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ?
C'est difficile de répondre. Comme vous êtes bizarre.
C'est une plaisanterie !
La semaine prochaine, ce sera la dernière semaine sans ouverture de salle, mais tu as déjà des munitions, encore une adaptation de jeu pour toi.
C'est ça, et on reste aussi dans la lignée de Paul W. Anderson avec la nouvelle version de Mortal Kombat produite par James Wan.